se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, l'iPhone 12 64Go reconditionné est à seulement 299€.
À ce prix-là, ça me fera un super cadeau de fête des mères.
En donnant une seconde vie à un produit reconditionné en France par les experts PRS.
Elle est pas belle, la vie ?
Auchan, avec plaisir. 50€ de remise immédiate sur l'iPhone 12 64Go reconditionné grade B, soit 299€ au lieu de 349. Valeur du DAS sur Auchan.fr. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Kit main libre recommandé.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story. Les GG vont écouter la France qui râle, la France qui soutient les agriculteurs au 32-16. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Oui, c'est à vous que nous allons donner la parole, bien sûr, plus que jamais, parce que ce mouvement est en train de s'étendre. Est-ce que vous approuvez, est-ce que vous soutenez, est-ce que vous êtes pour une amplification du mouvement? On va en parler, bien sûr, avec Zora Bitant, cadre de la fonction publique. Bonjour ma chère Zora.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée. Bonjour Mourad.
Bonjour, bonjour.
Et puis nous sommes avec Antoine Dirce, consultant auprès des entreprises, le natif de Dunkerque. On a la région parisienne, le Var et le Nord.
Le Nord, exactement.
Qui sont représentés aujourd'hui.
Le Nord.
Bonjour Antoine.
Le Grand Nord.
Allez, on y va justement. Parlons de ce qui se passe en ce moment sur les autoroutes, dans nos villes, nos campagnes, nos villages.
RMC, les grandes gueules.
C'est quasiment une carte de France qui évolue au quotidien, Olivier. Alors, en ce moment, on a 200 tracteurs qui sont sur la rocade de Bordeaux. On a la 4 qui est bloquée aux alentours de Strasbourg, la 62 du côté d'Agen. Ça commence à monter dans la Somme, dans le Pas-de-Calais. Et la FNSEA le dit, le mouvement des agriculteurs va s'amplifier.
Et on a même vu des taxis rejoindre le mouvement ce matin, notamment du côté de Toulouse. Toulouse qui était d'ailleurs bloquée, comme la rocade bordelaise l'a dit. Un mouvement qui s'amplifie, comme prévu d'ailleurs, hein. Les agriculteurs l'avaient annoncé, chaque jour un peu plus de tracteurs mobilisés. Et un mouvement qui se dirige vers Paris. J'entendais notamment cet agriculteur du côté de Beauvais qui expliquait que chaque jour, ils avançaient de quelques kilomètres vers Paris. Ils seront dans Paris dans quelques jours. La pression donc est à son maximum pour le gouvernement. Gabriel Attal qui devrait annoncer des mesures, il l'a dit hier, d'ici la fin de la semaine. Donc sans doute demain, jeudi ou vendredi. Mais ces mesures seront-elles suffisantes pour faire retomber la colère ? Une colère aussi qui il y a un drame quand même, précisons-le et rappelons-le, il y a cette éleveuse de 35 ans qui a été fauchée alors qu'elle participait à un barrage et on a appris que sa fille de 12 ans était morte de ses blessures. Le mari est toujours à l'hôpital gravement blessé et on pense au petit garçon de 10 ans de cette famille qui se retrouve donc ce matin sans sa sœur et sans sa mère. Et moi je trouve quand même qu'il y a une grande dignité de la part des agriculteurs parce qu'ils auraient pu basculer dans une colère un peu violente et je trouve que la façon dont ils réagissent, ils mettent un brassard noir, ils rendent hommage, etc. est quand même assez admirable. Maintenant, à votre avis, est-ce que ce mouvement va s'amplifier et est-ce que le gouvernement va réussir à le stopper?
Ce matin, je lisais quelques commentaires de Français qui disent « il est temps pour nous de rejoindre nos agriculteurs sur les ronds-points, sur les barrages. »
Alors, tous les sondages qui ont été publiés depuis hier montrent un soutien massif. Hein. C'était plus que les gilets jaunes au début, c'est-à-dire qu'on est à plus de 80% de soutien des Français à ce mouvement.
Alors, est-ce que vous pourriez rejoindre les agriculteurs justement sur les points de blocage, aller simplement les soutenir? La FNSEA annonce que ça va s'amplifier pour atteindre d'ici vendredi plus de 85 départements. Zora, tu pourrais être au côté ou klaxonner quand tu passes à côté d'eux, leur dire je suis avec vous ou pas? Ouais.
Elle fait plutôt klaxonner, elle roule pas.
Non, mais ça dit quelque chose d'assez important et qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est au-delà des agriculteurs qui, eux, représentent pour les Français les classes ouvrières, les classes laborieuses, ceux qui travaillent, ceux qui produisent, ceux qui font qu'on mange, et ceux qui sont laissés pour compte, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis des années, on dit régulièrement qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Ce n'est pas nouveau, hein. Moi, j'en avais déjà parlé il y a des années. C'est vraiment une profession totalement méprisée, un peu comme la ruralité depuis un moment, depuis toujours, un peu comme cette autre France qui n'existerait pas et qui, parce qu'elle ne fait pas de bruit, n'existe pas et on ne s'en occupe pas. Donc évidemment, ils sont en colère. Ils sont en colère d'abord, et notre ami Didier le dit si bien ici, D'abord parce qu'ils sont écrasés par les normes et parce qu'ils cherchent aussi à savoir, à comprendre quelle est leur utilité dans notre assiette bien et sûr. Quelle est leur utilité dans notre pays. À un moment où la malbouffe ou la bouffe industrielle a envahi totalement le quotidien et nos modes de vie, eux, ils sont assaillis, envahis de normes et en plus de ça, on leur demande une rentabilité j'allais dire, qui n'est pas le reflet de ce qu'on devrait avoir dans notre assiette. Donc, moi, je comprends totalement leur colère. Et je pense que
c'est les gilets verts, en fait, aujourd'hui.
Mais il ne faut pas la minimiser, quoi. Il faut arrêter de
Personne ne la minimise.
Non, mais les gilets jaunes, moi, je me souviens, j'ai fait partie de ceux qui ont suivi les gilets jaunes dès le début, parce que je trouvais intéressant de voir cette France qui n'est pas feignante, cette France qui n'est pas assistée et cette France qui souffre se rebeller. Parce que c'est une France qui est quand même vachement silencieuse. C'est pas une France qui chaque matin revendique un certain nombre de choses. Elle revendique quoi ? Elle revendique l'idée que, en fait, je travaille, je me lève, je suis pas feignant, je respecte toutes les lois, je fais tout ce qu'il faut, etc. Et pourtant, je suis méprisée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je vive mieux ? Et en fait, c'est ça. J'allais dire, ils demandent rien de plus. Or, aujourd'hui, les agriculteurs vont représenter, vont incarner cette France qui souffre, de cette France qui travaille, cette France qui souffre, cette France précaire, cette France exclue, et surtout cette ruralité totalement désertifiée, totalement désertée et totalement méprisée depuis une cinquantaine d'années. Donc, je pense que...
Donc, tu les soutiens.
Non seulement je les soutiens, mais en plus de ça, il va falloir que le gouvernement soit attentif.
C'est un monde que je ne connais pas bien. Mais que je soutiens totalement également. Je pense qu'on parle, en France, on parle d'exception culturelle. Moi, j'ai envie de parler d'exception alimentaire. Parce que pour être agriculteur, il faut être courageux déjà. Je pense que les agriculteurs font partie de notre patrimoine et qu'ils se retrouvent embourbés dans une technocratie, une bureaucratie européenne, la plupart du temps, avec des normes où les règles sont tronquées dès le début. Parce qu'ils ne peuvent pas. Quand on parle de libre-échange, on n'est pas armé pour le libre-échange. Nos agriculteurs ne sont pas armés par rapport à d'autres pays. Et je pense que c'est le début des emmerdements, et des emmerdements très graves pour le gouvernement. Je pense que c'est le début de la fin.
Carrément.
Oui, je pense qu'on va avoir une convergence des luttes. Parce que le gouvernement ne peut pas apporter de solutions aux agriculteurs. Les solutions, elles sont européennes. Notre Premier ministre,
une partie.
Il ne peut pas faire grand-chose. Si, il peut mettre 2-3 sparadraps.
Oui, c'est sûr qu'il ne peut pas, avec un coup de baguette magique, améliorer le sort des agriculteurs.
Je ne suis pas certain que des sparadraps suffisent pour calmer les agriculteurs.
Parce que c'est européen.
Ça a démarré en Allemagne avec une proposition.
Pays-Bas même.
Pays-Bas,
alors, qu'est-ce qui va se passer ? Les agriculteurs, soit ils arrivent à les contenter, ce dont je doute. Et dans ce cas-là, il n'y a pas que les agriculteurs qui ont des problèmes en ce moment. Parce qu'on est quand même dans un pays où on t'envoie des 10, des 15, des 20, des 30, des 40, des 50% d'augmentation, comme si c'était des epsilon, quoi, comme si c'était que dalle. Et je trouve que les Français sont gentils. Ils sont gentils, les Français, parce que ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure et ils sont calmes. Et là, je pense que les agriculteurs, ils ont donné le top départ. Donc, soit les agriculteurs, ils vont les contenter. Il y a d'autres professions qui vont dire, attendez, deux secondes, nous aussi, il y a ça. Soit ils n'y arriveront pas. Et la colère va monter, parce que ça va prendre sur d'autres professions. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, et le gouvernement le maîtrise, c'est pas avec deux tweets du Premier ministre et du Président de la République qu'on va les calmer. Le gouvernement en a pris conscience aujourd'hui, c'est le début des emmerdes.
Ouais, moi je pense que ce mouvement va aller loin, et j'espère que ce mouvement aille loin, parce que pour moi c'est l'irruption du pays réel sur la scène médiatique et politique. On n'entend pas les agriculteurs, ils travaillent en silence le plus souvent. On n'entend pas un certain nombre de Français qui travaillent. Et là, aujourd'hui, ils débarquent et ils disent « Mais arrêtez d'être complètement idiots là-haut. Vous nous avez demandé de passer au GNR, le fameux carburant des tracteurs. On a fait les investissements,
le gasoil
on a
changé
nos tracteurs. Ouais. » Exactement. Et là, vous nous augmentez les taxes. Mais vous nous prenez pour qui ? Vous nous piégez. Vous nous demandez de travailler et en fait, vous ne protégez pas par des lois...
On demande une excellence même à l'agriculture française.
Exactement.
On veut la meilleure agriculture du monde.
Et vous,
on en a les moyens.
Vous ne nous protégez pas dans la compétition mondiale. Et ça, en fait, je pense que les Français vont se reconnaître dans les agriculteurs, parce que c'est valable dans tous nos métiers quasiment. C'est valable dans toute la vie.
Oui, tu parles de la concurrence étrangère. On a appris ces jours-ci l'importation du lait
néo-zélandais.
C'est-à-dire que le lait va faire 20 000 km et être vendu moins cher que le lait français.
Le lait, la viande, c'est pareil.
Le alors, poulet ukrainien.
Le poulet
ukrainien. Et donc, c'est valable sur
hormones.
Alors, on dit c'est la faute de l'Europe. Alors, bien souvent, en France, on a une façon de surtransposer les normes européennes. Voilà. Donc, nos dirigeants ont aggravé des normes européennes. On a tué la compétitivité de notre agriculture et de beaucoup de métiers. Et on a, par l'Union européenne, facilité l'arrivée sur nos marchés de produits étrangers venus du monde entier.
Mais ça, c'est l'industrialisation de l'alimentaire, qui n'est pas normale. C'est devenu une industrie.
Je ne suis pas sûr que le problème, ce soit l'industrialisation. Je pense que le problème, c'est l'absence de logique de défense, défense de nos frontières, j'en parle souvent,
donc un peu de protectionnisme
de notre économie, mais toutes les entités économiques du monde, toutes les grandes aires économiques du monde, c'est-à-dire font ce protectionnisme.
Oui, les Américains,
ils
protègent leur agriculture.
Les Chinois, tout le monde le fait. Sauf nous.
C'est-à-dire que le libre-échange aujourd'hui, les accords de libre-échange qui ont été passés, en fait, ils ont profité à qui ? Aux très gros agriculteurs, ceux qui font de la masse,
c'est
qui
la ont les moyens d'exporter.
C'est pour ça d'ailleurs que c'est parti de Haute-Garonne, c'est parti de petites exploitations et d'exploitations bovines qui ressemblent à celles du camarade Didier Giraud. Et c'est aujourd'hui
après les accords de libre-échange, parce que j'entends aussi un discours très anticapitaliste, très antilibéral, tenu par la gauche.
Cas, c'est
parce
pas
que si j'entends, du coup, alors si on caricature, c'est que la gauche dit c'est à cause du libre-échange.
C'est l'argent.
Voilà, c'est l'argent. Et la droite va dire non, c'est à cause des écolos. En gros, un peu le débat, il est un peu comme ça. Et il est un peu caricatural parce que l'écologie, elle est un peu nécessaire parce que comme les agriculteurs, ils sont victimes du réchauffement climatique. Hein. C'est eux qui prennent les sécheresses, les inondations, les cultures qui posent trop vite.
Il faut les protéger aussi.
Donc voilà, ils ont conscience, quand vous parlez à des paysans, et c'est les premiers à voir que effectivement le temps a changé. Et puis les libre-échanges, on est quand même bien content de vendre des Airbus, on est bien content de, à un moment donné, moi je veux bien qu'on vive en vase clos, mais dans ce cas-là, allez dire à Toulouse où les agriculteurs, Airbus aussi c'est fini parce qu'on ne veut plus vendre d'Airbus, vous comprenez.
Non,
ce qui est caricatural, c'est de dire d'un côté libre-échange c'est mal et de l'autre l'écologie c'est mal. Ça c'est caricatural.
Là où tu as raison, Olivier,
libre-échange, tu le fais dans un cadre où tu protèges tes intérêts.
Oui, mais on ne peut pas comparer un pays d'un milliard et demi ou un pays de 300 millions d'habitants qui peuvent se suffire à eux-mêmes en termes d'économie avec un pays de 67 millions. Il doit s'adapter, il doit adapter son libre-échange. On a besoin d'exporter, mais on doit adapter ça pour un peu protéger nos agriculteurs. Je suis d'accord.
Mais le protectionnisme, ça peut avoir aussi un effet vertueux. Et plus, c'est-à-dire le protectionnisme alimentaire et produire l'excellence, ça permet aussi d'exporter. Ça fait partie du patrimoine. C'est pas à perte.
Le poulet ukrainien, ça part d'un bon sentiment. On se dit, les Ukrainiens sont en difficulté, donc on va leur autoriser à nous vendre leur poulet. Et puis le poulet ukrainien va arriver en massivement. Ouais. Et déjà, il y a un poulet sur deux en France qu'on mange qui n'est pas
Olivier,
français.
Olivier, c'est aussi lié à la crise. Je veux dire, c'est l'industrialisation de tout ça permet d'avoir des produits moins chers qui ne sont pas français en magasin. Et les gens, je peux te garantir que les gens, ils ont plein de principes en disant il faut défendre l'agriculture française, dès qu'ils se retrouvent chez Carrouf, ils vont aller chercher ce qui est le moins cher.
On en parlera tout à l'heure à 11h20. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se motiver
Carrouf, dans le sud, c'est Carrefour.
Oui, acheter français pour soutenir les agriculteurs. Mais là, comment tu expliques justement que ce mouvement des agriculteurs, il est soutenu par 85%
des Français. C'est normal.
85% des Français qui les soutiennent.
Mais c'est la France qui travaille.
C'est la France qui nous nourrit.
Qui travaille, c'est la France à qui on exige des normes à n'en plus finir, c'est la France à qui on invente des taxes quotidiennes qui vont de 0,5% jusqu'à beaucoup plus. Et c'est la France qui
la France des petits en fait, c'est les petits agriculteurs.
C'est la France qui a vu le pain au chocolat à 1 euro et qui est passé à 1,60 euro, 1,80 euro et qu'on lui remet à 1,60 euro. Elle dit chouette, il a baissé, mais elle a oublié qu'il était à 1 euro il n'y a pas longtemps, etc. Et c'est hallucinant.
C'est la France qui ne connaît pas les 35 heures.
Voilà, et c'est la France qui connaît. Et donc ça fait mal quand même, parce que même aujourd'hui, les classes moyennes et même les cadres supérieurs, tout le monde en est réduit à faire attention à son quotidien.
Si on revient sur le mouvement, c'est intéressant parce qu'on a le patron de la FNSEA, M. Rousseau, qui est parfois critiqué, qui était sur France 2 ce matin et qui dit on n'appelle pas à aller à Paris pour manifester. Mais quand on entend ce que disent les agriculteurs sur le terrain. Ils disent on va vers Paris.
Bien sûr.
Donc on voit bien que la base est beaucoup plus revendicative et que la FNSEA essaie de contenir tout ça, mais avec beaucoup de difficultés. D'ailleurs, le mouvement n'est pas parti de la FNSEA.
Oui, non, c'est leur problème de... d'avoir élu. Après, ils sont responsables.
Mais c'est comme les Gilets jaunes, c'est pas parti des syndicats. Les Gilets jaunes, c'est pas parti des syndicats.
Ni des partis,
d'ailleurs. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de SAS, et quand le SAS est, j'allais dire, est entre guillemets corrompu, et que le SAS essaye d'arrondir les angles depuis des années en disant au pouvoir, ah, écoutez, non, vous inquiétez pas, vous leur donnez ça, ça va les calmer, et que, en fait, la qualité de vie des gens ne change pas, le SAS, il saute. Le SAS, il saute et les gens veulent avoir affaire directement avec le bon Dieu.
On va continuer d'en parler, Mourad, Antoine et Zora. On va continuer d'en discuter, bien sûr, avec vous au 32-16. Une petite information pratique, parce qu'il y a pas mal de points de blocage. Il y a des opérations escargot du côté de Mornas. On est sur la 7. Attention, il y a les tracteurs. Il y a, je crois, une centaine de tracteurs qui sont en train de paralyser la circulation sur l'autoroute. Donc, soyez prudents, faites attention, on vous donne cette info, justement parce qu'on parle de la 7, on va rejoindre un des reporters d'RMC, Vincent Chevalier, sur place, parce que les agriculteurs qui sont sur un des points de blocage de la 7, là ils l'ont dit à Vincent, on est là, on ne bouge pas et comptez sur nous, on va rester et on est peut-être même parti pour rester un bon moment. Donc, est-ce que vous soutenez les agriculteurs? La FNSEA annonce 85 départements touchés par le mouvement, est-ce que vous dites, ouais, ok, go, allez-y, amplifiez ça, parce que finalement, ils sont peut-être représentatifs d'une France aujourd'hui qui n'en peut plus. Venant discuter avec les GG au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. La parole dans un instant à Laurent, chef d'entreprise du côté de la Sarthe. Nous serons du côté de la Haute-Loire avec Sébastien. Aussi qui tient une maison d'hôte, voir si la France soutient les agriculteurs aujourd'hui, si cette France veut l'amplification du mouvement. Mais d'abord, on va passer par Vincent Chevalier, le correspondant d'RMC sur le blocage de la 7. Il est dans la Drôme, Vincent, à hauteur de Saint-Rambert-d'Albon. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bonjour Vincent. Les agriculteurs ont passé la nuit sur place et ils tiennent le coup, hein?
Oui, la scène est un peu surréaliste, en fait, si vous voulez, sur l'autoroute, à pied, une autoroute déserte, il n'y a pas un bruit, il y a juste des tracteurs qui bloquent. Ils sont une cinquantaine d'agriculteurs présents sur place, très motivés pour cette nouvelle journée de blocage. Vous l'avez dit, hein, ils viennent de passer leur première nuit sur cette portion, c'est entre Lyon et Valence. Ils ont un peu dormi, mal dormi, surtout dans les tracteurs immobilisés au milieu des voies. Ils permettent d'avoir un petit peu de chauffage, on va dire, car le reste des installations est assez précaire. Plus tôt dans la matinée, quand il faisait nuit, des feux ont été allumés pour se réchauffer. Les agriculteurs étaient également réunis autour d'un barnum de fortune pour boire quelques cafés. Et ils se sont relayés au cours des dernières heures. Des camionneurs sont également venus les soutenir. Ils le disent, en tout cas, ils ne bougeront pas tant qu'ils n'auront pas de promesses concrètes de la part du gouvernement.
Alors, c'est que le début, donc.
Ah, ça, c'est clair, hein, parce que la circulation s'annonce extrêmement compliquée. Mais même dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, car au sud de là où je me trouve, il commence à y avoir des blocages du côté de Valence, de Bourg-de-Péage, aussi du côté de Montélimar. La circulation va se compliquer sur plusieurs routes nationales et départementales en Ardèche. Et puis, plus haut, au nord, des blocages sont attendus dans le Rhône. La préfecture de région demande carrément aux habitants de reporter leurs déplacements et même de privilégier le télétravail, si possible évidemment.
Ouais, merci Vincent Chevalier sur la 7.
Ça veut dire que si ça dure, ça aura des conséquences économiques dans le transport des marchandises, les gens qui ne peuvent plus aller bosser.
Comme pendant les Gilets jaunes,
ouais.
Pareil.
Après, on pose le problème quand même de dire, est-ce que faire grève, c'est bloquer un pays?
Oui.
Parce que c'est pas la grève, ça.
Là, il y a une bienveillance quand même des autorités, oui, puisque Darmanin a dit non, moi je ne débloque pas. C'est vrai que c'est assez surprenant de voir des autorités qui, dès le début, valident le blocage.
Oui,
en fait.
C'est ça.
Elles n'ont pas trop le choix.
On a presque l'impression qu'ils vont les aider. Hein.
Elles ont quand même pas trop le choix, parce que le pays soutient très largement ce mouvement.
Ah oui,
et puis, c'est un mouvement qui met vraiment le doigt sur l'inaction du politique, sur l'incapacité du politique à résoudre les problèmes. On parlait électricité qui augmente aussi, aucune intervention du politique. On
Parce qu'il y a eu un bouclier qui maintenant est retiré, c'est pour ça que ça augmente, mais il y a eu un bouclier quand même.
C'est la faute de l'impuissance, c'est-à-dire qu'on a donné un petit chèque et on voit bien que le petit chèque, il est temporaire. Et puis, autre preuve de l'impuissance du politique qui a fait irruption aussi de manière un peu dramatique, c'est que l'agricultrice qui est décédée et sa fille, elles ont été écrasées par trois personnes dans une voiture qui était sous OQTF.
Ah,
qui n'ont pas été expulsées. Et donc, c'est au-delà de mon sujet.
Et donc là, il y a aussi une impuissance de l'État.
C'est toute l'impuissance de l'État qui saute aux yeux. Et donc, le pays réel dit ras-le-bol.
Oui, d'accord, mais ça, je comprends bien. Mais le pays réel disait non à la réforme des retraites. Et ils pourtant, le gouvernement était intransigeant.
Je ne suis pas sûr que ce soit le pays réel. C'était les syndicats. Et là, ce n'est pas les syndicats. Là, ça dépasse tout le monde. Et donc, alors, moi, je dis, c'est le pays réel.
On va aller dans une seconde. Bon, le temps de passer par le 32-16, aller dans la Sarthe, écouter Laurent, qui est chef d'entreprise dans le transport. Bonjour, Laurent.
Oui, bonjour à vous, à toute l'équipe. J'adore votre émission, Monsieur Marshall.
Merci d'y participer, mon cher Laurent.
Et puis, un grand bonjour. Je suis fan de Mouad, quelqu'un que j'apprécie énormément.
D'entrée, j'ai senti que vous étiez un homme de goût, vous voyez.
Ouais. Sincèrement, parce qu'il est parti de rien, et ça, j'adore les gens qui partent de rien.
Je suis pas arrivé très loin. Mais bon.
Non, j'adore, parce que vous avez fait quelque chose à Toulon, c'est super avec le rugby.
Merci. Voilà.
Et puis, Laurent, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement, alors?
Alors, vous savez quoi? Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Je suis entreprise. Sincèrement, je suis à 350% pour l'agriculture. Parce qu'il faut savoir qu'on a une caste Paris, là. J'appelle ça les bobos, moi. Vous savez, les gens qui ne connaissent rien à rien. On a de la chance d'avoir des agriculteurs qui nous donnent à manger à tout le monde, à toute la France, et aussi à l'étranger. On a des gens qui, en gros, qui ne comprennent rien. On a une caste parisienne. J'appelle ça des bobos parisiens, moi. Des gros bobos, là. Il faudrait qu'ils viennent un peu à la campagne voir.
Parce que la bureaucratie, hein.
Ouais, on appelle ça une technocratie. On a tellement un gros mille feuilles dans ce pays-là.
L'énarchie aussi.
Ouais, l'énarchie.
Là, c'est intéressant parce que c'est aussi ce qu'on entendait au moment des Gilets jaunes. C'est vrai que quand on interroge les agriculteurs, c'est une crise morale. Il y a des problèmes économiques, mais tu sens qu'ils en ont marre aussi. Que des gens
mais
qui habitent en ville leur expliquer comment ils doivent vivre.
Vous identifiez, vous, le chef d'entreprise dans le transport, dans la Sarthe, qui est une sacrée région agricole d'ailleurs, avec les poulets de Loué.
Complètement. Moi, je suis très respectueux de tous ces gens qui partent, qui travaillent, qui font des choses, qui font améliorer le pays. Des gens du monde du travail, que ce soit salarié ou chef d'entreprise ou n'importe quoi, on ne doit être que. Le problème dans ce pays-là, on a des gens en haut, là, j'appelle ça la classe parisienne, là, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Quand je vois certains gens qui parlent d'économie, comme Monsieur le maire, qui pour moi est un incompétent, c'est un énarque, il ne sait même pas de quoi il parle. Vous savez, nous, les entrepreneurs, hein, on peut avoir une grosse boîte, une petite boîte, une PME, il faut savoir de quoi on parle.
On est dans le monde réel, quoi.
Ils ne sont pas dans le monde réel.
C'est des comptables.
C'est des théoriciens.
Ouais, des théoriciens. Et on est sous le terrain tous les jours. Donc, on sait ce que c'est, comment marche une entreprise. Ces gens-là, ils dépensent l'argent. Ils ont ah tiens, on va mettre des taxes, on va augmenter. Mais à force d'augmenter tout, mais à un moment donné, on devient un pays pauvre.
En fait, il y a un équilibre à trouver, Laurent, il y a un équilibre à trouver en fait entre la France du réel, c'est-à-dire celle du quotidien, à qui on doit quand même du respect, et une France quand même, une classe dirigeante politique, compétente. Compétente parce que pas parce qu'on vient du terrain qu'on est compétent, ça veut rien dire.
Il faut pas être démagogue non plus.
C'est vrai que tout va bien.
Je suis pas démagogue, Laura, mais faut arrêter. Vous savez quoi, on a des gens au gouvernement, vous savez, et c'est juste leur intérêt, c'est très élu surtout. Et je vais vous dire un truc, hein, on a beaucoup d'incompétents dans ce gouvernement. On a beaucoup d'incompétents. Il faut dire qu'on a un président qui est pas très bon. Lui, il se prend pour les nains, il se prend pour un roi. À un moment donné, à force de dépenser l'argent, donner de l'argent dans différents pays, on devrait s'occuper déjà de nos Français.
Laurent, là, ce qu'il souligne, par exemple, on a appris hier que 50% des membres de ce gouvernement, là, le nouveau gouvernement Attal, qui n'est pas encore complet, ce sont des gens d'Île-de-France. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un gouvernement qui est composé essentiellement de gens qui vivent en métropole et en Île-de-France. Mmh. Donc c'est sûr que, est-ce que ces gens-là peuvent sentir ce qui se passe dans les campagnes, en ruralité? Alors ils ont des conseillers, il y a des rapports. Oui, mais enfin les rapports, le rapport que tu reçois sur ton bureau, c'est la même chose que si tu es le samedi, si tu es un élu local, tu te fais engueuler par les gens au marché, etc. Moi je pense qu'il manque à la Macronie depuis le début ce problème. D'ailleurs, ils n'avaient pas vu. Alors là, ils ont anticipé, parce que là, ils en font des tonnes, même parce que Marc Fesneau, il va les voir, etc. Ils ont peur de revivre les Gilets jaunes. Mais il y a quand même un problème de perception.
C'est aussi un problème de méritocratie, je veux dire. On a très bien compris aujourd'hui qu'on distribue des places à des gens à qui on doit quelque chose parce qu'ils nous ont aidés. Pas à des gens pour leurs compétences. C'est le problème de ce pays, mais de tous les partis. Parce que quand tu arrives au pouvoir, ben tu y arrivais parce qu'il y avait des gens qui t'ont fait la courte échelle, qui t'ont aidé pendant tout un parcours. Et ces gens-là, tu leur es redevable. Même s'ils sont incompétents, tu leur es redevable. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les agriculteurs, et on sera d'accord, pourquoi on les soutient ? Parce que c'est un patrimoine commun. L'agriculture française, c'est notre patrimoine à tous, parce qu'elle est qualitative. Et
que ça veut dire
on doit les défendre. Moi, c'est pas mon monde, je suis un citadin. Ouais. Mais je m'identifie aux agriculteurs parce que je dis c'est mon patrimoine.
Mais ça veut dire,
c'est notre
Laurent,
savoir-faire.
Laurent, que vous pourriez aller les saluer, les rejoindre, aller les soutenir pendant un temps sur un rond-point, sur un point de barrage.
Si, moi, vous savez quoi, je vais aller plus loin. À un moment donné, il faut qu'on arrête de faire tout et n'importe quoi. Et si, moi, je pense que toutes les corporations, j'aime bien toutes les corporations, que ce soit taxi ou n'importe qui, qu'on aille bloquer, parce qu'en haut, ils n'entendent rien, en fait. On a un roi au gouvernement. On a un roi. On a l'impression qu'on revient autour des rois, à un moment donné. Il n'écoute rien. Il n'écoute personne.
Bah là, il y a quand même, il a déployé. Le premier ministre a reçu tout de suite des organisations syndicales. Ouais. On ne peut pas dire qu'ils ont. Alors, on va voir les réponses. Mais là, on ne peut pas dire qu'ils restent.
C'est pas qu'une question d'écoute, c'est deux mondes différents qui ne pourront jamais se comprendre.
Non, mais
allez-y, Laurent, c'est Olivier qui vous parlait.
Olivier Marchal, enchanté. Vous savez quoi, ce gouvernement, moi, j'en ai marre de ce pays. Pourtant, moi, je suis né là, j'ai 54 ans. Sincèrement, il faut remettre. Les gens travaillent, on a des gens très courageux. Et on a des gens, vous savez, dans ce pays-là, des gens très sensés. On est des gens très sensés, sincèrement. Mais le problème, on fait tout et n'importe quoi dans ce pays. On a une dette, on est hyper déficitaire. Moi, je suis entrepôt, vous imaginez, si l'entrepôt était déficitaire, on dirait, ah ben non, monsieur, vous arrêtez.
Ouais. Ces gens-là, et
interdiction de gérer.
Alors Laurent, pardon, je vous interromps, Laurent, parce que je voudrais qu'on aille justement du côté de la Haute-Loire retrouver Sébastien, qui tient une maison d'hôtes. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Un fidèle des GG, Sébastien. Vous êtes aux côtés des agriculteurs ?
Ah oui, totalement. Ouais. Il y en a vraiment marre de ce gouvernement et de ces choses qui sont incompétentes, qui n'écoutent jamais le peuple, la ruralité. Il faut dire les choses, carrément. Et même, voilà, moi je suis tenancier d'une maison d'hôte, même si j'ai pas de clients, ils ont qu'à m'amener la marchandise, je leur cuisinerai les plats et je les emmènerai sur les coins de blocage. Il n'y a aucun problème. Ouais. Parce que on est vraiment pris pour des pigeons, la France qui travaille. Eux, ils travaillent 70 heures. Nous aussi, ça nous arrive de travailler 70 heures assez couramment. Et on n'arrive plus à vivre avec 3 500 euros par mois. On n'arrive plus à vivre. Et encore, nous sommes en circuit court et nous gagnons de l'argent en circuit court parce que nous avons des agriculteurs qui sont intelligents et qui veulent travailler en circuit court aussi. Et voilà. Mais moi, je suis 100% avec eux. Ces gens-là, ce sont des idiots au gouvernement. On est gouverné par des incompétents.
Sébastien, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, c'est que en fait, il y a une espèce de solidarité de classe sociale et de sentiment de à la fois de précarité, mais aussi de peur du déclassement qui traverse un peu tout le monde, parce que les gens vous disent je gagne 4000 euros en 2024 et pourtant j'y arrive pas avec 4000 euros parce que je paye des loyers à 1000, 1002, voilà. Parce que le transport est super cher, parce que les vacances c'est totalement exclu, alors qu'avant quand on était classe moyenne supérieure on pouvait acheter sa maison, maintenant on peut plus acheter parce que c'est 4%, donc les gens se rabattent sur la location.
Si vous écoutez Bruno Le Maire dans TF1 il y a deux jours, là,
dimanche soir,
il dit qu'on a eu un déclassement au niveau de la note européenne et je sais pas quoi, et que les Français ne pourront plus se loger parce que les taux de crédit ont augmenté.
Oui.
Moi, il y a 9 ans de ça, le taux de crédit était à 1%. Aujourd'hui, il est à 6%, Zora.
Comment oui, 5,25, 4.
Pour investir et réinvestir les banques.
Non, il est à 4,25.
4 000 euros de salaire, madame.
Mais oui, mais vous savez que ça favoriserait les rentiers, parce que quand les taux de crédit, les taux d'emprunt sont très hauts comme ça, les taux de placement sont aussi très hauts.
Oui.
Sont très très hauts.
Et puis
ils ont remonté. Il y a quelques années, il y a deux ans, vous placiez de l'argent à 0,85. Aujourd'hui, ça a plus de 4. Ça a plus de 4. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avoir de l'argent, c'est quasiment une rentabilité supérieure à l'immobilier.
T'as l'inflation qui mange pas mal de ton bénéfice.
À 4%, tu gagnes ta vie. À 4%, tu gagnes ta vie, alors qu'avant, à 0,85, non. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le modèle économique est en train. C'est ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on a tapé les propriétaires. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir de l'argent qu'avoir de l'immobilier. Et je suis sur Bruno Le Maire, je voulais dire quelque chose.
Oui,
j'ai les idées. Il y a 48 heures, il nous a menti. Il a dit j'ai tenu ma promesse, on sera en dessous de 10%, c'est pas vrai, c'est des conneries.
Sur l'électricité.
Parce qu'effectivement, on augmente de 8 et quelques, 9, mais on augmente sur un prix qui a déjà augmenté. qui veut dire que sur ce, oui, si on prend,
il aurait déjà
si on prend en référence le prix de base d'il y a un an avant que ça augmente, on est à plus de 10%. Mmh. Et pareil dans un an. Donc c'est pour ça qu'il nous a menti. On est à plus de 10%.
Et là encore, c'est un exemple.
Effectivement, 10%, je ne sais pas, de 150, ça fera toujours plus que 10% de 100. Voilà. Mmh.
C'est encore un exemple d'inaction de nos politiques. C'est-à-dire qu'on doit sortir du système de régulation européenne du prix de l'électricité. On le sait.
Ça, c'est une urgence.
On sait qu'on a du nucléaire en France. Eh bien, encore une fois, nos politiques, parce qu'ils sont dans des schémas de pensée, dans des idéologies très mondialisées, très européanisées, etc., n'imaginent pas que ce soit possible. Mais les gens qui sont dehors, là,
L'Espagne l'a fait. Hein.
Mais oui, leur disent
tout
juste.
Tout en restant en Europe.
En fait, c'est une crise pour moi. C'est un appel à réhabiliter le politique.
Mais quand tu regardes Antoine,
on peut tout faire en politique.
Mais Antoine, le vouloir.
C'est terminé.
Il suffit de le vouloir. Et le problème, je pense, c'est que nos dirigeants actuels et ceux des 20 dernières années, voire plus, n'ont jamais voulu prendre en main les choses, n'ont jamais voulu prendre en main le réel et transformer la vie des gens. Alors qu'on peut le faire. L'exemple de l'électricité, demain, si le gouvernement le décidait, on pouvait éviter cette augmentation.
Ça me fait penser à ce que tu dis, c'est aussi, on peut voir les choses autrement. Si le peuple a toujours des bonnes solutions, parce qu'en fait, c'est typiquement français, on a tous les uns et les autres des solutions, les gouvernements successifs ne prennent jamais ces bonnes décisions. Ouais. C'est soit on a un problème de volonté et qu'en fait ils les connaissent parce qu'on n'est pas plus brillant que n'importe qui et que si nous on considère que ça c'est du bon sens, on se demande pourquoi c'est pas appliqué, et si c'est pas appliqué c'est qu'il y a une raison, c'est qu'en fait soit on vit une vaste hypocrisie et que nous sommes les dindons de décisions qui sont consciemment prises et volontairement prises parce qu'il faut les prendre et tant pis pour le peuple et tant pis pour ce que ça produit, ou soit ils sont totalement incompétents et totalement amateurs, ce dont je doute. Donc je pense que aussi nous sommes aussi victimes de choix et de décisions qui sont volontaires, sues et connues, qui produisent des effets délétères sur la population, mais qu'ils n'ont pas le choix.
On n'est pas que des victimes, parce qu'on les a quand même élus, ces gens-là.
Oui, alors
moi,
je n'ai
pas voté pour eux.
Je crois qu'aujourd'hui,
je me dis, on a les élus qu'on mérite parce qu'on a voté pour eux.
La grande interrogation qui se pose aujourd'hui, c'est l'Europe. Voilà, c'est l'Europe, parce qu'on a aujourd'hui une direction. Alors déjà, quand tu mets.
En même temps, la PAC de ses premiers budgets.
Quand tu mets Parlement européen, quand tu élus plein de gens comme ça, en général, pour s'occuper, ils trouvent des lois, des normes et.
50 milliards, la PAC.
Mais c'est surtout aujourd'hui, la grande remise en question, et je crois que chez les Français se la pose cette question.
Enfin, la PAC nous donne 12 milliards d'euros.
Est-ce qu'on a envie d'être dirigé de cette façon-là? Est-ce qu'on a envie d'être dirigé de cette façon-là? Ou est-ce qu'on a envie d'un gouvernement de proximité? Alors, la question que ce qui se pose aujourd'hui.
Merci à Sébastien d'avoir été avec nous. Agriculteur, est-ce que vous êtes pour une amplification du mouvement? Question qu'on a posée sur les réseaux sociaux.
Ça va pas plaire au gouvernement d'ailleurs, cette unanimité qu'il y a autour des agriculteurs.
87%.
Oh là là.
87% de oui pour amplifier le mouvement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'a prévu la FNSEA d'ici vendredi. Dans un instant, on s'en fout pas. La carte de France des endroits où on boit le plus d'alcool. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui dit non à l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Restez avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story.
On est le sujet avec les deux.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Antoine Diers, Mourad Boudjelal, Zor Habitant. Il est 10h moins le quart, on va donner la parole à Anaïs Sainz pour le On s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Bonjour Anaïs.
Gérard Larcher dit non à l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Antoine.
On s'en fout pas.
Zora.
On s'en fout pas.
Mourad.
On s'en fout pour passer à l'autre sujet.
Bon, écoutez, le président du Sénat, c'était hier sur France Info.
Je pense que l'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Il y a déjà un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui garantit l'IVG. Si l'IVG était menacé, croyez-moi, je me battrais pour qu'il soit maintenu. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Et donc, je verrai quels sont les débats. Par tradition, je ne vote pas, mais je vous donne un avis très personnel, en conscience. Je ne pense que la Constitution, c'est pas ce catalogue-là.
Voilà, l'IVG qui n'est pas menacée dans notre pays, selon Gérard Larcher. Pourquoi on s'en fout pas, mon cher Antoine ?
On s'en fout pas parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres lois à voter en ce moment dans nos assemblées. Et surtout, Gérard Larcher, en fait, il refuse de tomber dans le piège politique tendu par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron espérait utiliser ce débat comme paravent sur l'ensemble des autres problèmes. Eh bien, Gérard Larcher, de manière assez courageuse, dit non. Et moi, j'espère que ce temps qu'on ne va pas occuper dans nos assemblées pour parler de ça puisse être un temps où on vote des textes pour baisser les taxes, on vote des textes pour enfin alléger toute la bureaucratie, la simplification administrative, etc. Donc, que nos assemblées travaillent sur des choses vraiment utiles aux gens.
Zora.
Moi, j'étais partagée et j'avoue que les arguments de Gérard Larcher m'ont plutôt convaincue. Je pense qu'il n'a pas tort. En fait, il faut passer à autre chose. L'IVG est plutôt assez sanctuarisé aujourd'hui. C'est un droit et à la fois un droit et une liberté. C'est pas la peine d'en faire des tonnes.
Parce qu'on voit les États-Unis en fait. Et on se
oui,
dit,
mais non, mais c'est pas comparable. On a plus de problèmes de séparatisme et autres plutôt que ça. Donc, moi qui suis une fervente défenseuse de la liberté totale pour les femmes, en tout cas pour l'IVG, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire un truc solennel aussi.
Surtout, moi, j'entends un reportage ce matin qui disait les vraies questions, c'est parfois l'accès.
La prévention.
L'accès à certains centres d'IVG dans certaines régions.
Parce que les plannings familiaux ont été fermés, ont été fermés.
Donc, à la limite, au lieu de perdre du temps, peut-être.
Mais oui. Mettons les moyens.
L'argent sur la prévention.
Mais oui.
Les moyens contraceptifs, la pilule, etc. Peut-être des campagnes d'information qu'on pourrait refaire pour les jeunes.
C'est vrai.
Et puis aussi, peut-être aussi des centres. Il y en a moins, visiblement. Il y a moins de gynéco. Il y a moins de médecins, il y a moins de gynéco.
Il y a une France qui est contre l'IVG aussi.
En France, on est champion des. En France, on est quand même champion des conséquences.
Mais en fait, c'est-à-dire qu'on fait
que
des
nous, les causes, on ne cherche symbole. Jamais. En fait, on voit des conséquences, on essaye de mettre un pansement sur les conséquences et tout le monde, personne ne s'intéresse aux
mais
causes.
En fait, on pense
Or, la vraie cause, c'est faire diminuer drastiquement l'IVG parce que ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'IVG en 2024.
Mais parce qu'en fait, on pense qu'il suffit d'inscrire dans la Constitution pour régler le problème.
Non, il rêve, ça serait trop bien. T'as dit,
on continue,
Anaïs. T'as dit qu'il ne fallait pas voler, bah, t'enlèves les policiers. Ok, bah, c'est bon, c'est réglé, mais c'est la loi.
J'ai la carte des régions de France où on le boit le plus, où on boit le plus d'alcool. Est-ce qu'on s'en fout?
Dans le sud-est, non?
Alors, Mourad, on s'en fout ou pas?
On s'en fout pas.
Moi, on s'en fout parce que je suis pas une spécialiste de.
Antoine.
On s'en fout pas, il y a une info essentielle.
Exactement.
Oui, et que dans le Nord, ce sont des menteurs. Ouais,
oui, voilà. C'est le baromètre, les GG.
Il y a un pic à Toulon, on m'a dit.
Voilà, c'est pour ça qu'ils ont un intérêt à dire.
C'est le baromètre de Santé publique France qui publie cette étude. C'est en Occitanie où la part des consommateurs d'alcool quotidien est la plus élevée. 11% des Occitans boivent quotidiennement. Ensuite vient la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire. Et du coup, loin des clichés, mon cher Antoine, la région Hauts-de-France se retrouve en dessous de la moyenne nationale. Elle est même en baisse par rapport à 2017, moins 6,8% de consommateurs quotidiens d'alcool. Mais globalement, les GG, les Français boivent toujours beaucoup d'alcool, mais moins qu'avant, hein, selon la dernière enquête de Santé publique France. Antoine, pourquoi on s'en fout pas ?
On s'en fout pas parce que je suis dunkerquois, la période du carnaval est ouverte et je vois beaucoup de monde travailler à faire monter notre région dans ce classement et que finalement, on n'est pas si haut que ça dans le classement.
Ouais, mais nous, il y a donc, les touristes qui nous
aident. Loin des clichés, les Hauts-de-France ne sont pas l'endroit.
Il y a beaucoup de gens du Nord qui descendent dans le Sud.
En revanche, le Sud est surreprésenté. Hein. Ouais.
Le Sud est surreprésenté. Ben oui, mais dans le Sud, il fait bon, on fait l'apéro. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, on peut encore faire des barbecues dans le sud.
Il fait 24 degrés là.
Un barbecue, barbecue à l'eau, c'est compliqué quoi. Voilà, donc.
Et c'est uniquement l'explication.
Il faudrait savoir ce qui est bu. Moi, ce qui m'énerve, c'est cette façon de. Ne rêvons pas. Si demain on ne boit plus d'alcool, on prendra autre chose. Voilà. Et si les gens boivent.
La drogue, par exemple.
Oui, si les gens aiment l'alcool, c'est parce que c'est quand même un dérivatif quoi. Voilà. Et qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, tout est tellement anxiogène qu'on a besoin de dérivatifs.
Non, et puis boire un canon, c'est sauver un vigneron. Hein, donc,
comme je le dis, vous le savez, l'alcool est responsable de beaucoup de morts, mais c'est aussi responsable de beaucoup de naissances.
T'es pas obligé de boire jusqu'à être ivre.
Oui, c'est ça, on est d'accord.
Oui,
avec modération. Mais ce qu'il y a pas d'analyse, c'est que la consommation baisse. Il faut arrêter de culpabiliser.
Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à côté que
Olivier, tu m'écoutes pas.
La consommation baisse de manière générale. En revanche, les femmes ont rattrapé les hommes.
Boivent beaucoup plus. Adeptes du binge drinking.
Bah, elles ont un comportement.
Si on regarde la consommation de médicaments dans ce pays, elle est aussi monstrueuse.
Ça, le cannabis, c'est monstrueux.
Oui, mais oui, voilà.
Cannabis, c'est monstrueux.
La cigarette, c'est monstrueux.
L'alcool,
c'est monstrueux.
Les anti-alcool. Anti-alcool, il y en a beaucoup dans ce pays. Mmh. On en a fait un débat la dernière fois, on expliquait que c'était terrible l'alcool, mais l'alcool baisse. En revanche, le cannabis monte, les antidépresseurs explosent, notamment chez les ados. Il y avait d'ailleurs, il y a des médecins qui sont mis en cause parce qu'ils prescrivent n'importe comment.
Des suicides.
Accro, et puis parfois provoque même des suicides.
Oui, c'est vrai. C'est la facilité.
Les médicaments, facile. Et donc ça échappe au truc.
L'alcool, c'est terrible. Oui.
Sachant quand même que chez nous, c'est une industrie, l'alcool, parce qu'on vend du vin. Enfin, ça fait partie de l'économie française.
L'alcool, ça fait débat, mais les antidépresseurs.
C'est la culture, je suis d'accord avec toi.
C'est aussi un patrimoine, je veux dire.
C'est un patrimoine.
Le vin français.
C'est notre identité.
Il y a juste un imbécile aux États-Unis qui avait dit que le vin américain était meilleur que le vin français. Il s'appelle Donald Trump. C'est la plus grosse connerie qu'il ait pu dire. Pourtant, il en a dit. Il est évident que le vin français, c'est un patrimoine commun aussi. Il y a une excellence.
Dans cette période difficile, on a besoin de convivialité, de se retrouver autour d'un verre.
Et puis les GG. On est à 3 semaines de la Saint-Valentin, les amis. Et les célibataires là-dedans, bah oui, parce qu'un tiers des Français est célibataire.
Un tiers des Français,
c'est beaucoup, hein. Un tiers des Français, et c'est ce tiers-là se sent complètement exclu, forcément.
Un tiers des Français, si tu mets les enfants de 10 ans, ils sont célibataires.
Un tiers des sondés, des adultes. Non mais c'est le principe, tu suis pas
célibataire. Ça fait 22 millions.
Et donc les GG, ces personnes-là, ces célibataires se sentent exclus forcément de cette Saint-Valentin. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Tout le monde en prend un célibataire.
J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'appel, de cri personnel.
Juste pour dire une connerie, je dis que je m'en fous pas.
En fait, on n'a que des personnes en couple, j'ai l'impression, autour de la table.
Non, mais c'est quoi ce délire? Ils se sentent exclus, on s'en fout. En fait, la Saint-Valentin, c'est fait pour ceux qui sont en couple et ceux qui ne le sont pas. C'est comme Noël. T'as beau faire Noël, tu te sens exclu, mais c'est n'importe quoi.
Ah bon?
Bah oui.
Bah il y en a qui dépriment, des jeunes, des personnes.
Non mais ils ont pas besoin, ils sont pas en couple.
Après ça dépend si tu es seul et heureux, ça va.
Ça peut être un choix de vie aussi être seul.
Oui, ça peut être un choix de vie, mais ça peut être subi aussi.
Bon, on voit bien l'appel.
Sérieusement, il y a un message reçu.
Attends, s'il y a un tiers, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de garçons célibataires, Anaïs. C'est l'espoir pour toi.
Oui. Non, mais attendez, c'est une vraie question, les amis.
Alors, nos auditeurs n'ont pas compris qu'il y avait un appel.
Moi, j'ai pas d'empathie parce que je trouve que l'amour, il a pas besoin de la Saint-Valentin. C'est n'importe quoi de se fixer là-dessus, quoi.
C'est une arnaque totale.
C'est
du commerce.
Voilà, c'est un business.
Et là, on a en couple depuis combien d'années, Zora?
Dans un mois, un peu moins d'un mois, 40 ans.
40 ans.
Dans cette année, 35.
35. En couple ou pas?
Oui, de manière assez récente. Donc je vais faire.
Oh, félicitations,
Antoine.
Merci. Ça va faire tes 3 jours demain, c'est ça?
Est-ce que tu fais comme 60% des Français qui rencontrent maintenant en ligne sur les apps?
Ah non, moi c'était dans la vraie vie. C'était dans la vraie vie. Mais donc maintenant.
Contre les migrants, ils se sont encore.
Même pas.
L'amour arrive toujours quand on ne le cherche pas.
Et tu réfléchis à ça.
Je pense que je n'ai jamais fait de Saint-Valentin de ma vie. Ce sera la première. Il faut que je vois.
Il faut te dire, je ne peux pas être en février.
Il faut que tu prévois un bon resto.
Mais il a raison, Olivier, la Saint-Valentin, c'est une arnaque.
C'est une arnaque. Si je peux donner un conseil, évitez les restaurants pendant la Saint-Valentin parce que c'est un menu imposé et c'est le menu c'est de la marge pour le restaurant. C'est le menu le plus pourri. Peut-être qu'à la veille ou le lendemain, vous mangerez mieux.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, de quoi va-t-on parler jusqu'à midi? On va parler des agriculteurs à 11h20, à nous d'acheter français pour sauver les agriculteurs. 11h20, le GG7 et match. Est-ce que le télétravail tue la créativité? C'est le patron de L'Oréal qui le dit. Mais notre prochain sujet de discussion, c'est la colère des maires qui refusent d'accueillir les migrants que l'on va sortir de Paris le temps des Jeux Olympiques et les mettre en zone rurale. C'est le maire de Lavaur dans le Tarn qui dit hors de question que finalement Paris se débarrasse entre guillemets de ces migrants et les installe dans les villes sans qu'on soit consulté en plus. Est-ce que vous comprenez la colère des maires? Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.